Chapitre 8. Gardez-vous d'une mentalité de mercenaire. Le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Jean 10, versets 12 à 13. Le mercenaire est prêt à sacrifier le projet qui ne lui appartient pas. L'Écriture nous parle de deux prostituées qui se prétendaient chacune mère du même bébé. Elles avaient accouché à 2 jours d'intervalle, et l'un des nourrissons était mort pendant leur sommeil. Le roi Salomon, qui devait prononcer un jugement sur cette affaire, ordonna que l'enfant vivant soit tranché en deux, et que chacune d'elles en reçoive une moitié. Voici leur réaction. La femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, « Je vous en prie, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez !» Alors le roi prit la parole et dit, « Donnez à la première l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » 1 Roi 3, versets 26 à 27. Dans le domaine professionnel, de multiples situations rejoignent cette histoire. L'ouvrier, le cadre ou le patron, qui adopte son travail et s'y investit, cherchera à le protéger, le perfectionner, le valoriser. S'il en est l'initiateur ou l'inventeur, il se comportera comme un père envers son enfant. Mais d'autres intervenants, exerçant peu ou beaucoup d'influence, se feront remarquer par leur désinvolture. Ils mettront ce même travail en péril, le gâcheront et le dévaloriseront. Ils ne verront aucune objection à le réduire à néant. Parfois, ils ordonneront même de le faire. Pour qu'une œuvre grandisse, quelle qu'elle soit, il nous faut, comme Salomon, discerner entre la mère et la trompeuse, entre le bâtisseur et le mercenaire. À première vue, c'est loin d'être évident. Des multitudes de projets sont décapités par ceux qui ne les ont pas enfantés. Des multitudes d'églises locales sont coupées en deux par l'action de mercenaires déloyaux qui s'attribuent une paternité mensongère. Des multitudes de missions s'éteignent quand elles sont confiées à ceux qui n'en connaissent pas la valeur. Le mercenaire ne se soucie que de lui-même. Le mercenaire n'adopte pas son travail, ce dernier lui est étranger. Il est parfois son ennemi. Moins il y touche, plus il se croit libre. S'il doit timbrer à l'usine à 8 heures, il s'arrangera pour arriver à la dernière minute. Il se mettra au travail seulement s'il est surveillé. Dès 9 heures, son regard se portera sur la pause, qu'il prolongera au maximum. Dès 11 heures, il sentira son estomac en manque et pensera à son repas. À midi pile, qu'il soit en train de gonfler un pneu ou sur le point de signer un document, il s'arrêtera instantanément. L'après-midi se passera selon le même schéma, rêvasserie en plus. Il veillera à ne jamais rien faire de plus que ce qui lui incombe et saisira toute occasion pour se plaindre. Dans un cas similaire, celui qui est animé des valeurs du royaume se sentira davantage concerné par la qualité de son travail que par sa montre. Il lui arrivera de sauter une pause juste par nécessité. À 11 heures, il pensera « Je vais essayer d'achever cela afin d'entreprendre autre chose cet après-midi. » Si, aux toilettes, il voit qu'il manque du papier ou qu'elles sont sales, même si ce n'est aucunement son travail, il se comportera en responsable. Il est peut-être simple manœuvre, mais il est solidaire de l'ensemble. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Luc 15, verset 4. Posséder ou ne pas posséder, voilà toute la différence. Le mercenaire laisse les relations se dégrader et le matériel ou la récolte pourrir. Il faudrait une encyclopédie pour relater les pertes incalculables en vies humaines, en bâtiments, en véhicules, en années gâchées par pure négligence. L'homme faisant preuve de maturité se comporte en responsable. Sans se mêler des affaires des autres, il se sent concerné par la collectivité. En tant que citoyen, il se comporte comme gérant du pays. Un président a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays pourrait faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pourriez faire pour votre pays. » Au risque de choquer, je pense que cette phrase s'applique aussi à notre place de travail, notre lieu d'habitat, notre ville ou village. Quelqu'un a dit « Enseigne à un homme ses droits et tu verras une révolution. Enseigne-lui ses responsabilités et tu verras un réveil. » Il y a certainement dans tout cela un juste milieu. Mais quand un syndicat enseigne que tout responsable est un monstre et tout contestataire un saint, il prépare la ruine et les larmes. Le mercenaire se dérobe dès qu'une difficulté apparaît. Le mauvais berger fuit devant le loup. La difficulté, l'opposition, la menace dévoile la différence entre le mauvais et le bon ouvrier. Je suis frappé de constater la faiblesse des engagements humains. Je ne parle pas seulement ici des grands traités internationaux, ni de l'être humain en général, mais bien des disciples de Christ. Que le projet de valeur s'effiloche, s'évapore, fonde comme neige au soleil. D'autres sont mis en veilleuse, reportés ou annulés dès qu'un obstacle surgit. La moindre opposition, le moindre obstacle, et voilà des mois de travail remis en cause. Or, les œuvres de Dieu ne s'enfantent presque jamais sans de sérieux combats. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ou, comme le dit une autre version, celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. Proverbe 18, verset 9. La fuite devant les lions, les ours et même devant les chatons est un fléau dramatique qui engendre l'instabilité, les carences et la médiocrité. Notre attachement à nos brebis ressemble alors bien plus à celui du mercenaire qu'à celui du bon berger. Le mercenaire est avide de gains. L'une des définitions du mot mercenaire est « avide de gains ». L'amour du métier, la passion du travail bien fait ne le concerne pas. Il se moque de la qualité du service. Il ne regarde qu'à sa propre sécurité, sa position, son profit. Il se sert des autres au lieu de les servir. Le bon berger aime ses brebis. Le mercenaire aime l'argent. La bonne infirmière aime ses malades. La mauvaise aime l'argent. Le bon mécanicien aime la belle mécanique. Le mauvais aime l'argent. Le bon ministre aime la société. Le mauvais aime l'argent. Le bon président aime son pays. Le mauvais aime l'argent. Le bon concierge aime son travail. Le mauvais aime l'argent. Le bon pharmacien aime soulager. Le mauvais aime l'argent. Le bon évangéliste aime les hommes. Le mauvais aime l'argent. Bien entendu, l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas l'argent qui est la source du problème, mais l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Hébreux 13, verset 5. Ce dernier dénature et détruit la valeur de tout corps de métier et peut aller jusqu'à ruiner un pays entier. L'argent est un serviteur utile, mais un maître tyrannique. En mariant ce principe à celui de l'excellence, nous pouvons retenir que l'excellence dans le service produira des richesses, mais la poursuite des richesses détruira l'excellence. L'amour de l'argent rend le service froid, trompeur et souvent déficient. Dans combien de magasins, bureaux ou restaurants ne faisons-nous pas face à un personnel indisponible, dur et incompétent? On dirait qu'une épidémie d'égoïsme l'a atteint. Quand nous rencontrons un vendeur, un fonctionnaire ou un serveur disponible, aimable et compétent, nous en avons parfois les yeux humides de reconnaissance. Si donc votre fournisseur de services ne vous aime pas, et de plus, vide votre compte en banque, choisissez-en vite un autre. La terre appartient à Dieu avec tout ce qui s'y trouve. Sur le plan touristique, nous avons tous déjà trouvé des endroits paradisiaques transformés en dépotoirs. Nombre de régions, belles à vous couper le souffle, sont souillées quand le mercenaire y passe. Pneus calcinés, carcasses rouillées et moult ordures en témoignent. Dernièrement, je me suis arrêté sur une corniche. Les vignes escarpées descendaient jusqu'au lac d'un bleu profond, où quelques voiliers s'attardaient. Des montagnes encore enneigées me faisaient face. Il y avait là un banc abrité par le granit creusé à cet effet. Nombre d'amoureux avaient dû s'y arrêter pour y rêver ensemble. À côté se trouvait une poubelle, presque jolie, elle aussi, et pratiquement vide. Pourtant, sur le sentier, un mercenaire de passage avait jugé bon de jeter un papier gras et une bouteille vide. Par contraste, on peut souligner que l'endroit le plus lugubre peut retrouver une certaine dignité si quelqu'un commence à en prendre soin, à l'exemple de ces personnes qui fleurissent leur quartier, jusque-là morne et sale. En politique, la droite puis la gauche ont revendiqué le discours écologique. D'autres ont fait de ce sujet leur religion, pour ne pas dire leur idole. Le disciple de Christ devrait prendre soin de sa planète comme de son propre corps. Il n'en fait pas un dieu, mais il l'aime. La splendeur de la nouvelle création ne sera pas souillée, nul impur n'y entrera, conformément à Ésaïe 35, verset 8. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, adoptez-le. Aimez-le plus que l'argent. Soyez ferme dans vos engagements. Surmontez les obstacles. Offrez à la collectivité un service digne de ce nom et cultivez une attitude responsable.